de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment ça va? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Le président reçoit l'ancien premier ministre britannique et le président directeur général de SoftBank. » La compagnie aérienne Garuda lance cette nouvelle route pour remplacer la route fermée en raison du virus Corona. En Auvergne-Metz 2020 est une opportunité pour l'Indonésie d'attirer des investissements. PPATK cible l'Indonésie de devenir membre à part entière de FATF en 2021. Le Nigeria confirme le premier cas de virus corona. Chers auditeurs, voici le journal incomplet. Le président Joko Widodo a reçu la visite de l'ancien premier ministre britannique Tony Blair et du PDG de SoftBank Masayoshi Son vendredi au Palais Merdeka à Jakarta. Avant de discuter entre la délégation et les représentants du gouvernement, le président Joko Widodo a d'abord invité Tony Blair, qui était président exécutif de l'Institut pour le changement global de Tony Blair, pour une conversation informelle à la véranda du Palais Merdeka. Jokowi a salué l'arrivée des deux figures mondiales qui participeront à la construction de la nouvelle capitale indonésienne.
Welcome to Indonesia, Mr. Tony Blair and...
Bienvenue en Indonésie, M. Tony Blair et M. Masayoshi Son avec la délégation. Je suis heureux de recevoir votre visite pour discuter plus en détail du plan de développement de la nouvelle capitale indonésienne. Merci d'avoir accepté l'offre d'être le conseiller sur la relocalisation de la capitale. Je suis sûr que cette coopération solide soutiendra davantage la présence d'une capitale moderne et respectueuse de l'environnement. Tony Blair, après avoir rencontré le président Joko Widodo, a déclaré qu'il appréciait la vision de Jokowi de l'existence d'une nouvelle capitale. Il tentera de retenir les meilleures personnes pour s'impliquer dans la construction de la nouvelle capitale.
Now, part of the reason I think that I was asked to be part of this is so that we try and bring in people with the best of
On m'a demandé d'en faire partie. Nous essayons donc d'emmener les meilleures personnes dans leur domaine du monde entier, que ce soit dans les domaines de la technologie, des universités, des services de santé et autres, afin que nous puissions faire quelque chose qui est identique à la capitale de l'Indonésie. Le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, a déclaré que son parti était en train d'investir dans la construction de la nouvelle capitale indonésienne. Même s'il est toujours en cours, Masayoshi Son a déclaré que jusqu'à présent, le pourparler allait dans le bon sens.
Well, as it comes to investment, we have to always look at the total picture.
En ce qui concerne l'investissement, nous devons toujours regarder la situation dans son ensemble. Quel est le risque? Quels sont les avantages? Nous devons regarder l'ensemble. Nous devons donc discuter de tous les plans. Quel est le montant total de capital dont nous avons besoin? Quelle est la conception de la ville? Quelle est la population? Quelles sont les règles et réglementations de base? Nous devons donc regarder l'image globale. À la fin de l'image totale, nous décidons combien de quelle entité. Mais jusqu'à présent, la discussion va dans la bonne direction. Très excitant et bonne direction. Auparavant, le président Joko Widodo avait invité trois personnalités internationales en tant que comité directeur pour la construction de la nouvelle capitale. Les trois hommes étaient le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le PDG de SoftBank Masayoshi Son et l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. La sélection de ces personnalités devrait permettre de bâtir une confiance internationale, ce qui permettra à l'Indonésie de mener plus facilement diverses collaborations liées au développement de la capitale d'État. La compagnie aérienne Garuda Indonesia lancera cette route internationale, remplaçant les routes qui sont fermées temporairement en raison de la propagation du virus corona. Le président directeur de Garuda Indonesia, Irfan, lors d'une conférence de presse à Jakarta jeudi, a déclaré qu'en réponse à cette situation, Garuda a introduit une nouvelle route comme remplacement de la fermeture de la route en raison de Corona, en espérant que ces routes pourraient être maintenues et ne sont pas exposées par le virus Corona, en particulier celle de Denpasar. Ces routes comprennent de Denpasar à Mumbai, de Denpasar à Delhi, de Denpasar à Brisbane, de Denpasar à Kuala Lumpur, de Denpasar à Bangkok, de Denpasar à Delhi et de Denpasar à Taipei. À la même occasion, le commissaire de Garuda Indonesia, Triawan Munaf, a déclaré que cette nouvelle route devait être ouverte à partir de mars prochain. Le ministère de l'Industrie a déclaré que les préparatifs pour l'Indonésie en tant que pays partenaire officiel à Hannover-Messe 2020 se déroulent bien. La plus grande exposition de technologies industrielles au monde se tiendra du 20 au 24 avril 2020 à Hanovre, en Allemagne. Le directeur général de la résilience de la région de l'accès à l'industrie internationale du ministère de l'Industrie, Dodi Rahadi à Jakarta, a déclaré jeudi, lors de l'événement Hannover-Messe 2020, le ministère de l'Industrie se concentrera sur l'affichage de cinq principaux secteurs manufacturiers qui reçoivent des priorités de développement en accord avec la direction de Making Indonesia 4.0. Ces cinq secteurs sont l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie du textile et de vêtements, l'industrie chimique, l'industrie électronique et l'industrie automobile. En outre, le ministère de l'Industrie est prêt à promouvoir des stratégies et des programmes prioritaires dans Making Indonesia 4.0 afin de se transformer vers l'ère industrielle 4.0. Le Centre d'analyse et de rapport sur les transactions financières, ou abrégé en PPATK, cible l'Indonésie de devenir membre à part entière de Financial Action Task Force, ou abrégé en FATF, en 2021. Les différentes étapes du processus pour devenir membre à part entière de FATF ont été faites avec diverses exigences très lourdes. L'Indonésie est actuellement membre, mais son statut est observateur. L'observateur a le droit de parler, mais n'a pas de droit de vote. Le chef de PPATK, Ki Agus Ahmad Badaruddin, à Depok, dans l'ouest de Java, a déclaré que sa partie ciblait l'Indonésie à devenir un membre à part entière du FATF en 2021. Le Nigeria a confirmé le premier cas de corona vendredi. Il s'agit du premier cas en Afrique subsaharienne, car l'infection s'est propagée rapidement dans le monde. Le ministère de la Santé a déclaré que les cas confirmés étaient dans l'État fédéral de Lagos. Lagos est la plus grande ville du pays le plus peuplé d'Afrique, avec une population d'environ 20 millions d'habitants. Le ministère de la Santé, de son réseau social, affirme qu'il s'agit du premier cas signalé au Nigeria depuis le début de l'épidémie en Chine en janvier. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Manokwari, Papouasie-Occidentale. Le ministère du droit et des droits de l'homme du bureau régional de la province Papouasie-Occidentale ainsi que les agences gouvernementales compétentes prévoient l'arrivée de cargos en provenance de Chine à Manokwari dans un proche avenir. Le bureau de représentation juridique et des droits de l'homme de Papouasie-Occidentale, Antonius Ayorbaba, a déclaré mercredi à Manokwari que le navire était venu chercher du ciment dans une cimenterie qui opère actuellement à Maruni, Manokwari. Le bureau d'immigration de Manokwari s'est coordonné avec les agences compétentes pour anticiper l'arrivée de navires en provenance de Chine où le nouveau virus corona a provoqué l'épidémie de COVID-19. Le chef du bureau de santé provincial de Papouasie-Occidentale, Otto Parorongan, avait précédemment déclaré que le gouvernement régional était prêt à anticiper la propagation du virus corona. La surveillance est effectuée à toutes les entrées, telles que les aéroports et les ports, accompagnée d'une série de contrôles sanitaires. Ensuite, l'info de Boalemo, Gorontalo. Les participants de l'exploration touristique de Sulawesi 2020 ont affirmé admirer la beauté de Pulau Cinta en régence Boalemo dans la province Gorontalo. À une distance d'environ 15 minutes de l'embarcadère, les participants montent sur un bateau qui a été préparé par le comité pour atteindre cet endroit. Pulau Cinta est une rangée de chambres de villégiature sur sable blanc et au milieu de la mer. Un participant, Ari Yulianto, a déclaré que jusqu'à présent, il n'y avait pas encore trouvé l'attraction touristique unique et intéressante comme Pulau Cinta. Un autre participant, Yanni Naoué, a estimé que la beauté de Pulau Cinta devait être maintenue, même les installations devaient être ajoutées. L'exploration touristique de Sulawesi est commencée d'une aventure dans la nature en voiture à travers quatre provinces, à savoir Sulawesi Sud, Sulawesi Central, Gorontalo et Manado. La dernière info est venue de Lombok Central, Nusa Tenggara West. Le directeur général de Mandalika Grand Prix Association, Ricky Bahiramshah, a déclaré mercredi à Jakarta que le processus de construction du circuit de Mandalika à Lombok, Nusa Tenggara West, qui serait utilisé pour organiser des courses de MotoGP en 2021, n'avait atteint que 30%. Il estime que la construction du circuit sera terminée à la fin de cette année. Le circuit Mandalika n'a commencé qu'au début de janvier 2020. Plusieurs raisons ont retardé le processus de construction du circuit, notamment la construction des digues, la stabilisation géotechnique et le nettoyage du terrain des arbres. Néanmoins, la piste du circuit Mandalika devrait être vue en juillet, avant d'être officiellement utilisé pour l'événement de course de moto le plus prestigieux au monde la saison prochaine. Le circuit Mandalika deviendra plus tard le premier circuit routier au monde à avoir de belles vues avec une longueur de piste de 4,31 km et 17 virages. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 29 février. Le 29 février 1996, l'accident de vol 251 de Fosset. Le vol 251 de Fosset fait référence au Boeing 737-200 qui s'opère le service antérieur de Lima à Arequipa, Tacna, qui s'est écrasé le 29 février 1996 alors qu'il terminait la première étape, lors de son approche de l'aéroport international Rodriguez Balloon. Pas moins de 123 passagers et membres d'équipage dans l'avion ont perdu la vie dans l'accident. Il s'agit de l'accident de vol le plus meurtrier survenu sur le sol péruvien. Le 29 février 2004, le président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, a été évincé. Jean-Bertrand Aristide était un homme politique haïtien et ancien prêtre catholique qui est devenu président d'Haïti en 1991 et a été réélu et a été président depuis 2001 jusqu'à sa destitution en 2004. Aristide est un dirigeant haïtien démocratiquement élu et populaire parmi les Haïtiens pauvres. Les critiques disent qu'il a régné en tant que dictateur et qu'il était corrompu. Il a donc été renversé par un coup d'état militaire en septembre 1991 et a été évincé lorsqu'un certain nombre d'anciens soldats ont déclenché une révolte le 29 février 2004. Son deuxième éviction a suscité la controverse car Aristide a affirmé qu'il avait été contraint de quitter son pays sous pression des États-Unis et a été enlevé et renvoyé dans un pays d'Afrique. Au lieu de cela, les États-Unis ont rejeté la déclaration et ont déclaré qu'Aristide avait quitté son pays volontairement. Le 29 février 2012, Tokyo Skytree, la plus haute tour du monde, est terminée. Tokyo Skytree, qui s'appelait auparavant New Tokyo Tower, est une tour de diffusion, d'observation et de restauration à Sumida, Tokyo, Japon. La tour est la plus haute structure du Japon depuis 2010, atteignant une hauteur finale de 634 mètres en mars 2011, ce qui en fait la plus haute tour du monde, surpassant la tour de Canton à Guangzhou et est la deuxième structure la plus haute du monde après le Burj Khalifa, 829,84 mètres. La construction de la tour a été dirigée par Tobu Railway, assisté par un consortium de 6 stations de radiodiffusion terrestre dirigée par NHK. La tour est au milieu d'un projet de développement régional entre la station Tokyo Skytree et la station Oshiage, à environ 7 km au nord-est de la gare de Tokyo. L'une des principales fonctions de cette tour est de relayer les signaux de radio et de télévision. Le projet de construction de la tour a été achevé le 29 février 2012 et ouvert au public le 22 mai 2012. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cinta.
Voilà la chanson de Ahmad Dhani, dont le titre est Bunga Terakhir ou en français La Dernière Fleur. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Et la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici mon Indonésie. Et en beau titre, le ministère des entreprises d'État développe un système de surveillance de sous-holding. Le ministre des entreprises d'État, Erick Thohir, a rappelé que les responsables des entreprises d'État n'étaient que des gestionnaires et non des propriétaires de l'entreprise. Par conséquent, la gestion d'une entreprise d'État a des limites et ne peut pas être effectuée comme la gestion d'une entreprise privée, car une entreprise d'État a une étiquette d'État. Le rappel a été exprimé par Erick Thohir lors de l'événement CNBC Economic Outlook à Jakarta le mercredi 26 février dernier. Afin de maintenir la stabilité des entreprises publiques, Eric a déclaré que son parti avait construit un système qui comblait le fossé de la corruption. Il a indiqué que son bureau avait coopéré avec la Commission d'éradication de la corruption, la police et le bureau du procureur. Pour la supervision et la gestion, Eric Tohir préfère utiliser le concept de cluster ou de sous-holding. Il cible les groupes d'entreprises d'État de moins de 20 et chaque sous-ministre des entreprises d'État supervisera 7 à 8 sous-holdings. Eric Tohir estime qu'avec ce concept, les activités des entreprises publiques peuvent être plus contrôlées et plus compétitives afin de pouvoir bénéficier au pays. Eric Tohir est optimiste qu'un système bien géré peut réduire la corruption dans les entreprises d'État. À la même occasion, Eric a également demandé aux commissaires et directeurs des entreprises d'État d'aider à soutenir les 5 visions du président Joko Widodo qui comprenaient le développement des ressources humaines, le développement des infrastructures, la simplification des réglementations, dont la loi Omnibus, l'administration de la bureaucratie et encourager la transformation économique. Eric Tohir a également demandé que toutes les entreprises d'État soient en mesure d'obtenir la certification ISO 37001 du système de gestion anticorruption afin d'améliorer la gouvernance des entreprises d'État. Il a rappelé aux entreprises d'État que le ministère des entreprises d'État avait 5 piliers, à savoir la valeur économique et sociale pour l'Indonésie, l'innovation du modèle commercial, le leadership technologique, l'augmentation des investissements et le développement des talents. Précédemment, lors d'une réunion de travail avec la Commission 6 à Jakarta jeudi dernier, Eric Tohir a déclaré que les entreprises d'État ont un double rôle pour remplir la valeur économique et le service public. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Yeah.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous venez d'écouter la chanson de Yura Yunita et Glenn Fredly, dont le titre est Cinta dan Rahasia, qui signifie l'amour et le secret. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel introduisant la colline Banyon à Trenggalek en province Javaès. Trenggalek, qui est situé à environ 200 km de Surabaya, a une attraction touristique complète, allant des plages, des grottes à la nature montagnarde. L'une des attractions à visiter est la colline Banyon, située dans le village Bidoro, district Gandusari, Trenggalek. La colline Banyon, située à une altitude de 1175 mètres, offre de belles vues sur le lever et le coucher du soleil. Pour ceux d'entre vous qui aiment la nature et qui veulent vous gâter les yeux, visiter la colline Banyon peut être votre destination touristique. Dans cette région de la colline Banyon, vous pouvez profiter de quatre beautés naturelles à la fois à des moments différents. À partir du soleil levant, de la terre au-dessus des nuages, du cocher du soleil et du pays des étoiles. Le lever du soleil apparaît vers 5h30, temps d'Indonésie occidentale. Le pays au-dessus des nuages peut être apprécié à partir de 5h jusqu'aux 8h. Avec l'étendue des nuages qui a recouvert la zone entourant cette colline, la vue de cette colline semble très exotique le matin et l'après-midi. Pour assister à la beauté du lever du soleil, il faut bien sûr du beau temps. Le soleil levant sur la colline Banyon est si beau. Le soleil apparaîtra entre les montagnes et les collines du côté est de la région Trenggalek. Une fois satisfait, vous apprécierez le lever du soleil. Vous serez immédiatement séduit par la beauté des nuages qui recouvrent les habitants et les collines. L'épaisseur de ce nuage dépend des conditions météorologiques. Lorsqu'il pleut la nuit, le brouillard ou les nuages sont très épais, comme s'il était au-dessus des nuages. Mais si le temps est ensoleillé, cette nuit-là, le brouillard qui apparaît est généralement mince, mais la vue sur les collines du Banyon reste magnifique. De nombreux visiteurs de la colline Banyon profitent du charme du pays au-dessus de ces nuages pour prendre des photos. En outre, vous pouvez également ajouter au plaisir de l'atmosphère de la colline Banyon en commandant une variété de boissons chaudes dans des étals autour du sommet de la colline Banyon. Si le charme sur la colline Banyon le matin fait toujours défaut, vous pouvez également profiter de la beauté du coucher de soleil. Vous pouvez regarder le coucher du soleil à cet endroit vers 17h30. Ensuite, la nuit, vous pouvez toujours profiter d'une autre beauté naturelle, à savoir les paillettes de millions de lumières dans la colonie qui ressemblent à des étoiles. Pour se rendre à la colline Banyon, qui se trouve à environ 13 km au sud du centre-ville de Trenggalek, on peut atteindre en moto ou en véhicule à quatre roues, mais vous devez être très prudent car la route est faite de ciment coulé, outre qu'il y a des pentes abruptes. Pour entrer à la colline Bagnon, vous n'avez pas besoin de payer. Si vous voulez passer la nuit ici, vous pouvez installer une tente sur cette colline Bagnon. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
Berjalan di muka rumahku, penuh kaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara.
C'était la chanson de Fidi Aldiano intitulée Aku Cinta Dia ou en français Je l'aime. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur l'Indonésie qui aura un aéroport spatial. L'Indonésie disposera pour la première fois d'un aéroport spatial. L'emplacement choisi pour l'établissement de l'aéroport spatial est Biak, Papouasie. Il y a deux aéroports à construire. Le premier est un aéroport spatial à petite échelle et un aéroport spatial à échelle internationale. Plus tard, l'aéroport spatial à petite échelle sera utilisé pour des essais de petites fusées, tandis que l'échelle internationale sera utilisée pour des essais de fusées de plus grande envergure. Actuellement, le ministère de la Recherche et de la Technologie et l'Agence nationale aéronautique et spatiale, l'APAN, se concentrent d'abord sur la construction d'aéroports spatiaux à petite échelle. Alors qu'à l'échelle internationale, ils essaient de trouver les investisseurs désireux de travailler ensemble dans cette construction. En plus d'être proche de l'équateur, la sélection du village Soukobie en région Biak Numfor dans la province Papouasie comme lieu de développement de l'aéroport spatial est due à sa position d'environ 1 degré de latitude sud et face à l'océan Pacifique directement, ce qui le rend sûr pour être utilisé comme site de lancement. L'APAN prévoit qu'en 2024, la construction de l'aéroport spatial pourra être achevée, bien qu'elle ne soit pas encore parfaite. La construction de l'aéroport spatial a été réalisée pour fournir plus d'espace pour le lancement de fusées à plusieurs niveaux qu'il développait également. Actuellement, l'APAN développe une fusée sonde ou une fusée de recherche atmosphérique qui augmentera progressivement sa cible d'altitude. Cependant, le chef du LAPAN, Thomas Jamaluddin, a déclaré que les avantages de l'aéroport spatial étaient pour la maîtrise de la technologie et le fonctionnement des catastrophes satellitaires. Pour l'avenir, l'Indonésie, avec sa situation privilégiée sur l'équateur, peut fournir des services de lancement de fusées satellites. Jusqu'à présent, l'APAN a contacté plusieurs partenaires internationaux, à la fois des institutions gouvernementales et privées de Chine, du Japon, de Corée, de l'Inde et de Russie. Certains d'entre eux, a déclaré Thomas, ont exprimé leur intérêt à travailler ensemble, mais plusieurs questions plus détaillées sont toujours en cours de discussion. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam
sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu. Lihat aku sayang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Aku takkan pergi.
Chanson de Angie dont le titre est Menungu Kamu qui signifie Je t'attends. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Cette édition, nous présentons une chanson de Kroncong intitulée Fajar Bhakti. Fajar Bhakti est une chanson originale de Kroncong. Elle raconte de la belle matinée d'un village situé au bord d'une colline. Quand le soleil se levait, les paysans, hommes ou femmes, petits ou grands, étaient tout prêts à aller au champ. Ils ont heureusement accueilli la matinée. Le soleil n'atténue pas leur enthousiasme à lutter pour le bonheur. Et voici Sri Widadi chantant la chanson de Kroncong intitulée Fajar Bhakti.
Terima setiap hari demi bahagia bersama.
Voice of Indonesia.
C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Au revoir.